OK, donc, ce matin, on continue notre série sur qu'est-ce qu'un chrétien. Et en fait, juste avant de commencer, je veux souligner les messages de Laurent et Lynn. Come on, hein? C'était excellent. C'était super. Merci beaucoup pour votre cœur puis votre désir de vouloir voir l'Église grandir. Puis c'était vraiment cool. J'ai eu l'opportunité d'écouter ça cette semaine. En passant, juste pour vous dire un petit rappel, pour tous ceux qui, par exemple, vous n'êtes pas ici les dimanches matins, sur notre site web, on a les messages audio, puis on les a en vidéo aussi. Donc, on enregistre maintenant vidéo, puis on met ça. Et vous allez juste aller voir sur notre page YouTube, OK? Fait que faites une recherche EEDT, allez là. Puis là, vous allez avoir toutes les vidéos qu'on a depuis quand même un certain temps. On met ça. Puis vous pouvez même vous abonner à la page. Et lorsque vous vous abonnez, aussitôt qu'on publie une vidéo, vous allez recevoir une notification. Ça va vous dire, l'Église évangélique de Saint-Germain a publié une vidéo. Donc, fait que vous allez savoir. C'est juste pour ceux qui s'intéressent. Je sais que moi, j'aime beaucoup ça, regarder le vidéo. J'aime mieux ça que l'audio, à moins que je suis en auto, là. Ouais. OK. Ce matin, c'est notre troisième message dans la série. Et la dernière fois qu'on s'était vu, donc il y a trois dimanches, on avait vu la chair. Il y en a-tu qui se souviennent un peu de ça? La chair. On avait parlé, en fait, des conséquences désastreuses d'un chrétien qui vit selon la chair. Les conséquences désastreuses spirituellement, mais même physiquement, comment ça peut... On n'a pas vraiment touché profondément à ça, mais on a touché juste brièvement. Mais comment c'est désastreux pour un chrétien de vivre selon la chair. C'est pas du tout le cœur du Père et la volonté de Dieu. C'est pas ça qu'il veut. Mais malheureusement, il y a des croyants qui tombent dans la chair, puis c'est terrible comment ils peuvent devenir. La Bible va même dire qu'ils peuvent devenir sept fois pire. Et que la Bible compare ça à un chien qui retourne à son vomi. C'est ça, un chrétien qui vit selon la chair, qui retourne vers ses anciennes habitudes, vers les choses du monde, puis c'est terrible. C'est une image horrible, là. Mais c'est pour nous faire comprendre comment c'est horrible, une telle chose. Malheureusement, ça se produit. Et on a vu comment régler ça, qu'on devait, par l'esprit, faire mourir notre chair. Par l'esprit, faire mourir les actions de notre corps, de notre chair. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Pour ne pas vivre selon la chair... On va dire positivement, on a besoin du Saint-Esprit. OK? C'est vraiment le Saint-Esprit qui est l'élément essentiel de nos vies. On a besoin de lui, on a besoin d'être dépendant de lui, on a besoin de développer une communion avec lui, on a besoin d'être rempli de lui, on a besoin de l'écouter, on a vraiment besoin de développer cette relation avec lui pour ne pas tomber dans la chair. Le pire avec ça, c'est que quand on tombe dans la chair, on est souvent les derniers à s'en rendre compte. On s'en rend pas compte, mais on devient charnel dans notre façon de penser. Puis ça commence là, ça commence dans les pensées. On va voir ça un peu encore ce matin. Ce matin, c'est ce que, en fait, j'avais dit qu'on verrait l'inverse. On va voir aujourd'hui. Donc, on a vu de marcher selon la chair ou de la chair. Et là, ce matin, on va marcher selon l'esprit. Marcher ou vivre selon l'esprit, c'est deux termes qui sont synonymes dans le Nouveau Testament. OK? Marcher, c'est dans le sens d'une vie. Tu sais, tu avances dans la vie et tout ça. Donc, c'est pour ça que Paul, il va employer ce mot-là. Et je veux juste commencer en vous disant que un chrétien, parce qu'on est, c'est ça notre série, c'est quoi un chrétien? On essaye de voir, de revenir à la base, de revenir c'est quoi, parce que comme j'avais expliqué, il y a tellement de fausses notions sur qu'est-ce qu'un chrétien aujourd'hui. Les gens, n'importe qui dit j'aime Jésus, mais s'est rendu un chrétien, puis des fois il y a aucun fruit, aucun résultat dans leur vie. Puis là, quelqu'un qui fait juste prononcer une prière, je te demande pardon Seigneur, puis là on pense, ah ben là, tu sais, mais le gars, il a rien changé dans sa vie, il est retourné dans ses vieilles affaires du monde, puis là on pense qu'il est né de nouveau, cette personne-là. Ben, tu sais, la Bible a dit, on reconnaît un arbre d'après ses fruits. Donc, on a besoin de clarifier ces choses-là. Et ce matin, en commençant, juste vous dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'était notre premier message. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a eu cette expérience-là de la nouvelle naissance. Il y a une nouvelle vie, il y a la vie de Dieu qui est entrée en lui. Et à cause de cette vie-là, il y a une nouvelle nature, il y a un nouveau cœur, des nouveaux désirs. Il y a des choses qu'il désire maintenant, c'est nouveau. Avant, il désirait pas ces choses-là. C'est normal parce que là, il y a la nature de Dieu à l'intérieur de lui. Fait qu'il y a un changement de vie et il commence à avoir des fruits, il commence à avoir des résultats de ce changement de vie-là. Fait que c'est quelqu'un qui est né de nouveau et, j'aurais dû le souligner, qui désire, ça c'est bien important le mot désirer, qui désire marcher selon l'esprit malgré les attraits de la chair. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau et qui désire marcher selon l'esprit. Puisqu'il a une nouvelle nature, comme on a vu, puisqu'il a un nouveau cœur, il a des nouveaux désirs. Et une des preuves que quelqu'un est né de nouveau, c'est que maintenant, il y a le désir de marcher selon l'esprit. Il y a un désir en lui pour avancer dans les choses de Dieu. Vois-tu, avant de naître de nouveau, on n'a pas ce désir-là. Ah non, on a totalement un désir de vivre pour nos désirs à nous, pour vivre pour notre chair, pour nos... Tu sais, tu comprends? Toute la vie tourne autour de nous. Mais lorsque tu es né de nouveau, les désirs changent. Ça veut-tu dire que tu deviens parfait? Non, ça veut dire que tes désirs changent. Et cela malgré les attraits de la chair. Parce que la chair, elle demeure toujours là. Le vieil homme que le Nouveau Testament va parler. Paul va parler du l'homme nouveau et le vieil homme. Donc le vieil homme, c'est l'homme, c'est le vieux Terry avant qu'il naisse de nouveau. Et le vieux Terry, il est là, lui. Et lui, il a encore ces tendances-là et ces désirs-là de retourner dans les choses qu'il faisait avant qu'il connaisse Jésus, avant qu'il naisse de nouveau. Donc, c'est pour ça que la Bible parle de ce combat-là, le combat, la guerre entre la chair et l'esprit. Il y a un combat qui est là. Quand tu es né de nouveau, tu entres dans le combat. Avant que tu naisses de nouveau, il n'y en avait pas de combat. Mais non, parce que tu vivais pour plaire à ta chair. Mais lorsque tu nais de nouveau, soudainement tu te rends compte que, wow, il y a des désirs qui sont là, il y a un attrait qui est là, mais il y a encore l'attrait vers l'ancienne vie qui est là. Donc, tu es continuellement mis dans une situation de conflit. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont misérables puis malheureux. Pourquoi? Parce que eux ont pas compris et ont pas développé cette capacité-là, si tu veux, de faire mourir la chair et de vivre selon l'esprit. Vois-tu? Parce que quand tu es toujours en combat, mais c'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que la vie est lourde, c'est pesant. Puis c'est sûr qu'il y a moins de joie là. Puis c'est tout est lourd. Mais parce que faut que tu comprennes que t'es mis dans cette guerre là. L'Esprit de Dieu est avec toi pour vaincre. Puis on va voir ça dans quelques minutes. Mais c'est que t'as besoin de t'approprier de l'Esprit de Dieu pour faire mourir la chair, faire mourir. Puis là, quand ça revient ces désirs là. Mais tu as toujours l'âme, tu as les âmes qui sont pas charnelles, tu as les âmes spirituelles, tu as l'Esprit de Dieu qui est avec toi pour encore une fois vaincre ces désirs-là et ces actions-là de la chair. Vois-tu, si tu veux être heureux, autrement dit, ce que je suis en train de dire ce matin, si tu veux être heureux, marche selon l'Esprit. Vis pour Dieu. Donne-toi. Clenche. Arrête de niaiser. Tu seras jamais, jamais pleinement satisfait et pleinement heureux tant que tu vas être un gna. Non, tu sais. Avant, dans le temps, on disait un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur. T'sais, mais un pied dans le monde, ça veut pas dire que le samedi soir, t'es dans les clubs de danseuses, puis dimanche matin, t'es à l'église. Ça, c'est l'exemple extrême. Mais un pied dans le monde, c'est dans les choses du monde, les désirs du monde, les pensées du monde. Fait que tant que tu vis avec ça à l'intérieur de toi, ben oui, tu connaîtras pas la plénitude de Dieu. La plénitude de la joie de Dieu, de la présence de Dieu. Tu ne connaîtras pas ça. Faut que tu t'abandonnes. On l'a chanté ce matin, mais c'était bon. Faut que tu t'abandonnes. T'abandonnes, tu meurs. Tu meurs, tu meurs à toi-même. Tu meurs à ta chair, tu meurs à tes désirs et tu vives pour Dieu. Tu, je, nous avons été créés pour ça. On a été créés pour ça. On n'a pas été créés pour vivre dans la chair. On a été créés pour vivre pour Dieu et selon l'Esprit. Dis à personne à côté de toi, j'ai été créé pour ça. OK, tournons ensemble, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 8. On va voir deux grands textes. Verset 1. Père, ce matin, je te remercie pour ta parole. Oh my, je te remercie pour la révélation de ton cœur à travers de ce qu'on va lire ce matin. Puis je prie que tout le monde soit là. Je prie que, Père, nos pensées soient en toi. Je prie que nos cœurs soient engagés envers ta parole, afin que, Père, l'Esprit puisse prendre ces paroles et puisse apporter la vie là où il y a la mort. Ce matin, je déclare la vie au nom de Jésus. Et je déclare que Père, ces gens-là qui vont recevoir ta parole avec douceur vont être capables de vaincre la chair, vaincre toutes les pensées puis les actions qui nous amène à s'éloigner de toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour la victoire pour ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. OK. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wouhou! On le connaît celle-là, hein? En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a rendu libre, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, pas parce que la loi était pas bonne, pas parce que la loi était pas puissante, mais parce que la chair la rendait sans force. Notre chair, pas capable d'accomplir la loi. Donc la loi était comme rendue inutile, elle n'était pas capable, dans ce sens-là, de nous sauver et de nous rendre libres. C'est pour ça que Jésus fallait qu'il vienne. Pour nous laver, pour nous justifier, nous affranchir, et qu'il nous donne son esprit pour qu'on vive dans la liberté. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, malgré qu'il n'a jamais péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, écoute ça, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Rapidement, on va voir une couple de choses vraiment, vraiment le fun dans ce passage-là. La première qui nous dit, c'est que le chrétien ne vit pas sous la condamnation. C'est important pour nous de saisir ça en commençant parce que lorsqu'on parle de ce combat-là entre la chair et l'esprit, pour la personne qui aime Dieu, pour la personne qui est née de nouveau, la condamnation peut venir facilement. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas parfait. On se rend compte qu'on fait des erreurs. Puis le diable est bon pour nous rappeler nos erreurs. Puis des fois, il y a des chrétiens qui sont bons pour nous les rappeler aussi. Fait que, puis là, des fois, il y a des gens qui sont durs sur eux-mêmes aussi. Puis ils se rappellent, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, c'est important que de comprendre ça en commençant. Parce que Paul, au chapitre 7, juste auparavant, les versets, surtout 14 à 25, où ce qu'il va parler de que il veut faire le bien, mais il est pas capable de le faire. Il veut pas faire le mal, mais il se ramasse à faire le mal qu'il veut pas faire. Puis il est en expliquer ça, tout ce combat-là qu'il y a dans la vie du croyant. Que dans le fin fond de notre cœur, on veut aimer Dieu, puis on veut, mais il y a quelque chose qui nous amène souvent vers le contraire, vers les choses de la chair. Et c'est pour ça que Paul commence son chapitre en disant, « Hey, je veux juste que tu comprennes, ceux qui sont en Jésus-Christ, ça c'est un mot, c'est une phrase pour dire ceux qui sont nés de nouveau. » Quand tu nais de nouveau, la Bible, Paul va parler que maintenant tu es en Jésus-Christ, tu es maintenant en sécurité en lui, enveloppé en lui, gardé en lui. Fait que, il veut que tu saches que, hey, ce combat-là que tu as, c'est normal, ok? Puis il va y avoir des moments où ce que tu vas tomber, des moments où ce que tu vas faire les choses que tu n'as pas le goût de faire. Mais je veux que tu te rappelles qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis ça c'est une promesse, puis c'est une bonne nouvelle, mais une promesse qu'on a besoin de s'approprier. C'est comme je dis, surtout les gens qui aiment Dieu et qui veulent plaire au Seigneur. Il y a des gens que pour eux, c'est même pas un issue, on dit en anglais. C'est même pas une affaire, un problème. Tu sais, veux dire comme mais il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur, puis qui veulent plaire à Dieu, puis veulent avancer plus loin. Mais quand tu fais ça, quand tu pousses l'enveloppe un peu là, les violents qui s'emparent du royaume, quand tu te fais violence un peu, tu te rends compte vite fait, rapidement, que t'es pas parfait, puis il y a des erreurs que tu vas faire chemin faisant. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malgré les erreurs que je fais, malgré la chair, et même malgré le péché, il n'y a pas de condamnation, Paul y dit. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ma condamnation, notre condamnation, en mourant sur la croix. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Puis ça a l'air toute une bonne nouvelle pour nous ce matin, en tout cas. Oui, mais je veux pas que c'est sérieux de suite. C'est une bonne nouvelle. Combien ont déjà ressenti la condamnation? Hein? Le réflexe, c'est de tourner vers Romains 8.1. Puis dire, wow, Seigneur, tu promets dans ta parole. Pas à cause de moi, pas à cause de mes œuvres, mais à cause que je suis en Jésus-Christ, tout simplement. Jésus a été fait pour moi, justice, justification. Il a été fait pour moi, tout ce que j'ai besoin, il a été fait pour moi. Donc maintenant, je suis en lui. Et Dieu me regarde à travers de son fils Jésus. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gardez le verset 31 jusqu'au verset 34 dans Romains 8. Paul y dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu sais, des fois, on chante ce chant-là, puis on est tout comme, si Dieu est pour nous, tu sais, puis mais le contexte, c'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Dieu est pour toi parce qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Il n'est pas contre toi, il est pour toi. Donc, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'héritage béni du croyant est assuré non à cause de ce que je fais ou ce que je ne fais pas, est assuré à cause de ce que Jésus a fait. Et là, regarde le verset 33, c'est là que c'est intéressant pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est sous-entendu, personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie, qui rend juste, qui rend innocent du péché. Qui les condamnera? C'est sous-entendu, personne. Pourquoi? Parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Point d'exclamation, j'aime ça. Bang! C'est done deal, c'est fait, bang! Il est mort pour nous, il est assis à la droite du Père et il intercède encore pour nous. Je pense que c'est un bon intercesseur. Le meilleur. The best in the West. And the East and the North and the South. Okay. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Okay? Et il intercède pour nous. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul, il dit, tu es justifié. Tu es un fils. Tu es un enfant de Dieu. Et ça, ça dépend tout de ce que Jésus a fait pour toi. Donc, oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas flancher un peu à gauche et à droite. Mais il n'y a pas de condamnation. L'ennemi veut te condamner. Les gens, des fois, veulent te condamner. Souvent, toi-même, tu veux te condamner. Mais Dieu ne te condamne pas, il te justifie. Ça, là, gang, là, c'est pour moi qui ai inventé ça. Parce que probablement, je n'aurais pas inventé une affaire de même. C'est Dieu. En envoyant son fils mourir sur la croix. Maintenant, un petit maintenant, par exemple. Le chrétien ne vit pas sous la condamnation, mais le chrétien, lorsqu'il pêche, vit sous la conviction. Bien différent. Bien différent. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la condamnation amène aucun espoir pour toi. La condamnation, c'est quelque chose qui t'écrase, c'est quelque chose qui dit c'est fini pour toi, il n'y a rien à faire. Ça, c'est la condamnation. Ça, c'est le diable est très bon dans ça. Elle dit, il n'y a pas d'espoir pour toi. La conviction, c'est Dieu dans son amour, parce que tu lui appartiens. Parce que t'es son fils, t'es sa fille. Dans son, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu continues à marcher sur ce chemin-là de péché. Le chemin de la chair. Parce qu'il sait que ce chemin-là, on a vu tantôt, mène à la mort. La mort spirituelle. Des fois, même la mort physique. Les conséquences désastreuses qu'on a vues. Donc, il veut pas que tu ailles là. Fait qu'est-ce qu'il fait? Dans son amour, il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de te convaincre de changer de trac. Et là, c'est là où est-ce que l'état de ton cœur est révélé. C'est là où est-ce que tu vas dire, OK, oui, je réponds à la conviction ou je m'endurcis à la conviction. Hébreux va parler dans Hébreux chapitre 3, puis il cite psaume 95, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'il dit? N'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire ça, qu'à chaque fois que Dieu me parle, soit que j'attendris, soit que j'endurcis mon cœur. Quand j'obéis, je marche dans la tendresse. Quand je désobéis, je marche dans la dureté. Je m'endurcis. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, tu sais, avant j'entendais la voix de Dieu, puis là j'ai tellement de misère à entendre la voix de Dieu. Une des premières choses que je vais leur poser, est-ce que tu marches en obéissance ou en désobéissance? Est-ce que tu obéis au Seigneur? Si tu désobéis au Seigneur et tu as une vie de désobéissance, la voix de Dieu devient très difficile à entendre une année parce que ton cœur est dur. Hey, il y a des gens qui des fois sont assis le dimanche matin. La parole de Dieu est prêchée. Tout, parce que Dieu, dans 2 Timothée 3,16, il dit que la parole est là pour nous convaincre. Et la parole est prêchée, tout ça. Puis c'est comme, ting. Rien. Ressortent d'exactement de la même façon, puis peut-être pire que de la façon qu'ils sont entrés. Parce que leur cœur s'est endurci. Vois-tu, la repentance amène un cœur tendre. Donc, quand je marche sur ce chemin-là de la chair, puis de la désobéissance, puis je m'endurcis, puis tout ça. Mais Dieu, lui, il m'aime, puis il veut me parler. Fait qu'il veut me parler par la parole, il veut me parler par une émission de télé, Colin. Il va tout faire, il va tout essayer parce qu'il t'aime, il m'aime. Il va tout faire pour essayer d'attirer mon attention. Puis là, le jour où est-ce que je décide d'obéir à sa voix et je me repens, je réponds, la façon de répondre à la conviction, c'est la repentance. Je me repens, je m'humilie. Mais mon cœur s'attendrit à ce moment-là. Puis la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il donne sa grâce à ceux qui s'humilient, ceux qui marchent dans l'humilité. Repentance. Je me repens, Seigneur. Puis je me relève, puis je me revire de bord, puis je reviens là où est-ce que j'étais. Donc, on ne vit pas sous la condamnation. Il y a toujours de l'espoir pour le croyant. Mais par contre, quand je pêche, il y a une conviction qui vient sur ma vie. Puis ça, c'est la preuve que je suis un enfant de Dieu. S'il n'y a pas de conviction qui vient jamais sur ma vie, ben en tout cas, vous ne lisez pas la même Bible que moi. Parce que quand je lis la parole, je suis souvent confronté à mes attitudes, à mon caractère, à ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai... Bon, tout ça, je suis confronté. Jacques, il dit que la parole est comme un miroir. Hein, vous avez vu ça? Il est comme un miroir. Tu lis, puis tu te vois en « s'il vous plaît ». Tu dis « wow ». Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Parce que c'est trop fatigant. Puis c'est pour ça qu'on vient à l'église, puis on veut toujours que le pasteur nous prêche des beaux petits sermons qui vont nous dire qu'on est faim. Mais aussitôt qu'on est confronté, on lève les feux. Je vous dis des vraies affaires, matin. C'est des affaires qu'on vit, là. C'est la réalité, ça, là, en tant que pasteur. Des gens, des fois, sont fins avec toi. Fin avec toi. Mais aussitôt que tu les confrontes, fini. Fini, mon gars. C'est l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. On ne veut pas être confronté, on ne veut pas mettre au défi. On ne veut pas... Non. Je l'ai l'affaire. C'est toi qui es dans l'erreur. On ne vit pas dans la condamnation, mais quand on pêche, puis quand on s'en va sur un chemin qui dévie, on vit sous la conviction de Dieu. Puis ça, c'est l'amour. S'il vous plaît, voyez l'amour dans ça. Parce que s'il ne nous aimerait pas, il nous laisserait aller. Vas-y, détruis-toi. Mais non, c'est comme un père qui dit à son fils, « Reviens, fiston, va pas là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te faire mal si tu fais ça. » C'est l'amour du père. Le fils, il n'est pas trop content. Il aimerait ça. Lui, il pense que le père le prive de liberté. Mais dans le fond, c'est parce que le père l'aime et il sait qu'il y a des dangers qui sont là. Right? Le chrétien ne vit pas sous la condamnation. Deuxièmement, le chrétien vit sous une loi supérieure. Le verset 2, on tourne au chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie. S'il vous plaît, quand Paul parle de la loi, il en parle comme étant, enlevez le côté juridique, là, il en parle comme étant une force ou une influence. OK? Même, ce serait, pour notre compréhension, plus facile de insérer le mot force ou influence, OK? Donc, en effet, la force de l'esprit ou l'influence ou la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la force ou l'influence ou la puissance du péché de la mort, OK? C'est plus facile à saisir quand on voit ça. Et c'est dans ce sens-là que Paul il voulait dire. Fait que cette l'influence et la puissance de l'esprit, c'est un esprit de vie, c'est la vie de Dieu, en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est exactement ce que je parlais tantôt. C'est que j'ai ce combat-là. Et si je ne m'approprie pas la puissance de l'esprit, ben je suis toujours dans cette influence, dans cette puissance du péché et de la mort. Mais quand je m'approprie la force ou l'influence de l'esprit, je vis au-dessus. Plus haut, plus loin, plus supérieur. Bob, j'aime ça prendre l'avion. Je sais que toi, tu n'aimes pas ça, mais je vais t'expliquer quelque chose, OK? Pourquoi que j'aime prendre l'avion? Je vais t'expliquer ça. J'aime pas nécessairement attendre dans les aéroports. J'ai attendu un nombre d'heures... fou, vous pouvez pas vous imaginer des fois. Mais j'aime prendre l'avion, puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu prends l'avion, c'est incroyable de... Avant d'embarquer, tu vois ce gros oiseau-là. Tu te dis, pour l'amour, comment que ça va faire pour rester dans le ciel, ça? Tu regardes ça, c'est immense, là, OK? Puis tu te dis, wow, hey, c'est... Moi, je vais me rendre, là, comme quasiment à l'autre bout de la planète, là, dans cette affaire-là, tu sais. Comment ça va faire? Puis là, t'embarques, puis là, du-du-du, puis là, si j'ai... Dans un... Comment qu'il dit ça? C'est toujours drôle. Comment qu'il dit ça? Dans le char que ça... C'est sûr que ça arrivera pas, mais si jamais on crash, tu sais, il y a une façon qui, un mot qui dit, en tout cas, dans l'éventualité d'un, ouais, c'est ça, tu sais. Moi, à chaque fois, il dit ça. Je trouve ça drôle. Fait que, là, il faut tout ça. Là, il arrive, puis il t'amène, là, tu sais, juste sur le tarmac, puis là, il t'arrive sur la piste, là. Là, tu te dis, man, là, c'est, on est là, tu sais. Puis là, t'es assis, puis là, wow! Puis là, tu sens ça, là. Pfff! Là, tu sens le devant lever. Wouhou! Là, ça lève, mon gars. Puis là, maintenant, ça tourne, là. Wow! Tu regardes, tu vois le ciel, là, puis tu vois l'eau, là. Wow! Là, puis là, je t'encourage-tu? Non, je pense pas, hein? Je pense que je t'en... Mais écoute ça. Hey, paye-moi le billet puis les vacances, je vais y aller avec toi, c'est sûr. Écoute. Bon, écoute ça. Écoute ça. Quand tu penses à ça, OK? Un avion qui est vraiment un des avions les plus communs, c'est on appelle ça un 737. C'est un des avions les plus communs de transport. Un 737 pèse 75 tonnes ou, pour ceux qui sont français, 68 038 kilogrammes. OK? Et ça, cette affaire-là, ça lève dans les airs. Pourquoi? À cause de la loi de l'aérodynamique. Et à un moment donné, puis c'est pour ça que je trippe quand je prends un avion, parce qu'à un moment donné, la loi de la gravité est surpassée par une loi supérieure. Une loi qu'on appelle de l'aérodynamique. OK? Et la loi de la gravité est toujours là. Parce que enlève cette loi-là qui me permet d'être dans les airs, dans l'éventualité de... OK? Mais tant que cette loi-là fonctionne, la loi de la gravité est surpassée. Oh my gosh, que c'est bon ça! Je dis que ça, où je m'en vais. La loi du péché et de la mort, c'est comme la loi de la gravité. Ça t'attire toujours vers les choses du monde, vers la chair. Toujours, il y a un attrait qui est là. Mais Dieu, en Jésus-Christ, il nous a fait embarquer dans son 737. Et tant que tu es dans le 737, tant que tu embarques dans cet avion-là, tu restes dans cet avion-là, tu es en Jésus et tu t'appropries la puissance de l'Esprit, tu voles au-dessus, tu vas une loi supérieure et les attraits de la chair sont plus là. Come on! Embarquer dans un avion me permet de défier la loi de la gravité. Wow! Tu sais. Puis là, quand je suis en train de voler, tu sais, au début, là, tu le sens, puis là, tu sens toute la force que ça prend pour surpasser cette loi-là de la gravité. Mais une fois que tu es rendu en l'air, c'est pareil comme si tu serais en bas ici. Tu te lèves, tu vas marcher, tu manges, tu bois, tu dors, tu... Ah oui, Bob, c'est... Mais malgré ça, tu es quand même en train de défier la loi de la gravité. Le croyant qui vit en Jésus et qui s'approprie la puissance de l'Esprit, il défie, il vit au-dessus de la loi du péché et de la mort. Il n'y a pas besoin de vivre là-dedans. Pas besoin de vivre dans le péché, pas besoin de vivre dans la chair. Il peut vivre en Jésus et être en feu pour Jésus. Come on, c'est tellement cool ça. L'attraction est toujours là, mais il y a une force pour être au-dessus. L'attraction est toujours là, mais il y a une force pour être au-dessus. Fait que le chrétien vit, ne vit pas sous la condamnation, il vit sous une loi supérieure. Et troisièmement, le chrétien vit avec des pensées différentes que le texte nous dit. On tourne encore dans Romains 8 et on va regarder le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et dans le fond, ici, c'est le nerf de la guerre. On parle de cette guerre qu'il y a, mais voici la clé de la guerre. Le mot s'affectionner, c'est un mot que Paul, dans le grec, veut littéralement dire penser. Louis II le traduit affection parce que nos pensées nous amènent à nous affectionner aux choses. Mais à l'origine, c'est une pensée que tu as. Tu penses, tu as des intentions vers quelque chose. Et tout simplement, Paul dit, ben, tu sais, les gens qui vivent sur la chair, ben, t'as pas besoin de regarder plus loin, là. C'est des gens qui pensent aux choses de la chair. C'est juste que leurs intentions sont vers les choses de ce monde, de ce beau monde. Tandis que les gens qui vivent selon l'esprit, qui sont dans cet avion-là, ben, regardent pas plus loin. C'est que leurs intentions et leurs pensées sont vers les choses de l'esprit ou les choses de Dieu. La version Darby nous donne une version un peu, vous l'avez compris. Car ceux qui selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. OK? Ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit, leurs pensées sont aux choses de l'esprit. C'est le même mot que Jésus a utilisé lorsque Pierre a voulu le reprendre. Écoutez ça, vous allez comprendre. Tu sais, quand Pierre a voulu prendre Jésus à part, puis il a dit, Jésus, à Dieu ne plaise, si tu penses que tu vas aller mourir à Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan, mais continue. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Puis là, ça nous ouvre tout un chapitre, là. Parce que regarde, c'était pas mauvais ce que Pierre désirait. Mais parce que ses pensées n'étaient pas dans les choses de Dieu, il n'y avait pas la pensée de Dieu pour ce que Jésus avait à faire. Il y avait la pensée humaine. Puis le chrétien, malheureusement, souvent, ça peut être des bonnes choses, puis on mêle l'affaire, là, parce qu'on se dit, ben c'est bon, mais c'est peut-être pas Dieu. Hello? C'est quelqu'un qui entend ça? Des fois, c'est bon, mais parce que tu marches pas selon l'esprit et tes pensées sont pas dans les choses de l'esprit, ben c'est plus que bon que Dieu veut. Il veut la pensée de Dieu. C'est pour ça que Paul a mené, il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Paul, il pouvait dire ça. Il était tellement dans Dieu, dans les choses de Dieu, que pour lui, c'était facile de discerner. Ah, ça vient de l'homme, ça vient de diable, ça vient de Dieu. Mais la seule façon de faire ça, c'est d'être dans les choses de Dieu. Right? On a vu ça il y a quelques semaines, le discernement que Dieu veut nous donner, la maturité en tant que croyant. Donc, La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes pensées? C'est quoi l'objet de tes pensées? J'ai pas le temps, le temps me manque, c'est de valeur, mais tu sais, je sais pas si vous souvenez-vous de ce que Dan Slade nous avait enseigné? Souvenez-vous de ça? Tu sais, on avait pris 5 gars, là, puis right, l'âme, le corps, la terre, puis c'est que l'esprit est mort quand tu viens au monde, puis c'est l'esprit de Dieu qui te fait que tu nais de nouveau, donc ton esprit prend vie, et ton esprit, elle, est toujours vers le ciel, vers les choses de Dieu. Mais ton corps, ta chair, elle est toujours vers les choses de la terre, toujours attirée pour se plaire, satisfaire elle-même. Puis en plein milieu de ça, il y a ton âme. Et c'est ton âme qui décide qui va gagner. C'est ton âme. Et c'est les pensées de ton âme qui vont déterminer si tu t'en vas vers les choses de Dieu ou si tu t'en vas vers les choses de cette terre ou de ce monde. OK. Donc, c'est très important parce que c'est comme je dis, c'est le nerf de la guerre. C'est qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées. Fait qu'est-ce qu'il y a, de quoi tu te nourris, de quoi tu t'entretiens dans tes pensées? Philippiens 4:8, hein, on connaît tout ça. On devrait le connaître. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Pose-toi cette question-là la prochaine fois que tu as une pensée. C'est-tu vrai? C'est-tu honorable? C'est-tu juste? C'est-tu pur? C'est-tu aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Puis est-ce que c'est digne de louange? Prochaine fois, tu veux parler contre quelqu'un? Prochaine fois, tu entends une grosse rumeur? Pense ça au test de Philippiens 4:8. Avant de répandre quelque chose, avant d'appeler Henriette puis Juliette, pense ça. Pense ça au test. Si tu vrai? Si tu honorable? Si tu juste? Si tu pur? Si tu aimable? Ça mérite-tu l'approbation? Si tu vertueux? Si tu digne de louange? Mais Paul, il dit ça. Des choses comme ça devraient être l'objet de nos pensées. C'est-à-dire le focus, la mire de nos pensées, ça devrait être des choses comme ça. Puis, je veux juste te dire quelque chose. Si en tant qu'Église, ça deviendrait l'objet de nos pensées, il y aurait peut-être pas mal moins de problèmes. Pas mal moins de problèmes. Pas mal. Faire le ménage dans nos pensées. Il me reste 7 minutes. Je veux qu'on aille voir quand même Galates 5. Pouvez-vous me donner encore 7 minutes? De toute façon, on a déjà perdu une heure pareil. C'est quoi? C'est quoi 7 minutes puis, ou 10 minutes ou 15 minutes de plus? Non, je vais essayer d'aller vite. Toujours des rires incrédules quand je dis ça, pas la même. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit ou vivez selon l'esprit, hein, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu peux pas mélanger les deux. Tu peux pas. Il n'y a pas de gris, là. Come on, il n'y a pas de gris. Oh, je suis tanné. Il n'y a pas de gris. Il y a la chair puis il y a l'esprit. C'est ça que Paul dit ici. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ou plutôt, vous pouvez pas faire ce que vous voulez à cause qu'ils sont opposés. Okay? C'est en ce sens-là. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Il n'y a pas de zone grise. Sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent, ceux qui vivent dans ça, n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Pourquoi qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Tu ne peux pas vivre comme ça, d'avoir cette vie-là, puis être un chrétien. Tu ne peux pas. Parce que si tu es né de nouveau, tu as la nouvelle nature à l'intérieur de toi, tu as un nouveau cœur, puis comme j'ai expliqué il y a quelques semaines, tu peux avoir un moment de oui, où ce qu'on dirait que, my gosh, on dirait que tu n'es pas un chrétien, là. Tu es une chire de la chair, comme on dirait, là. Ah, c'était laid, ça, mais en tout cas. Mais tu peux avoir une saison, mais c'est pas ça qui va caractériser ta vie. Tu vas te réveiller si tu es un chrétien. Paul, il dit. Puis là, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Y en a-tu qui pensent comme moi que la deuxième liste est pas mal plus belle que la première? Les œuvres de la chair devraient être évidentes pour nous, frères et sœurs. Lorsqu'on les voit dans nos vies ou autour de nous, ça devrait être évident. Puis imaginez comment ça peut être difficile pour une église quand les chrétiens vivent comme ça. Mais on doit refuser. Comme on a dit tantôt, on doit embarquer dans l'avion. Quand tu n'es pas dans l'avion, mais ça t'amène à des affaires comme ça. Mais tu as besoin de refuser, tu as besoin d'embarquer. Jésus a payé le prix, tu as le billet. Tu as ton boarding pass, tu l'as. C'est gratuit. Il faut juste que tu t'en serves. Puis tu embarques dans l'avion. Puis tu vives au-dessus de toutes ces affaires-là. C'est pas mal plus beau, le fruit de l'esprit. Je vais vous lire dans la parole vivante, OK, rapidement. Puis vous allez voir comment c'est... Oh, j'aime la parole vivante parce que c'est vivant. En effet, verset 19, « En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, ça c'est le vieil homme, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église. Des divisions. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Oh my gosh! Le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de divisions. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripas et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, verset 22, produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Oh my gosh! La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Oh my gosh! La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Faut qu'on refuse. Si on veut avancer, si on veut grandir, faut qu'on refuse. Puis on a le choix. On a le choix. Ça, c'est ma plus grande question que je vais demander à Dieu quand je vais le voir. Pourquoi que tu nous as laissé le choix? Oui, je sais, là, je l'ai dit à tout le monde, là, parce que quand tu choisis, tu prouves que tu aimes, puis ouais, mais regarde la chenoute qu'on fait. Regarde la chenoute qu'on fait. Regarde les... Oh, le dommage. Dommage que l'on fait entre nous, pour nous-mêmes. Le témoignage à ce monde. Regarde le dommage que l'on fait. Puis le Seigneur, dans son amour, il dit, « T'as le choix, Terry, je ne forcerai jamais personne. » Puis Seigneur, fais plier ma volonté à la tienne. Puis je prie que pour l'Église, qu'il fasse plier notre volonté. Tu sais, quand Paul il a rencontré Jésus, là, tombé sur le... Ouais. Puis... Jésus lui a dit quelque chose là, que pour moi, là, c'est... Oh. Il dit, Paul, tu sais, pourquoi me persécutes-tu? Bon, tout ça, là. Je suis Jésus que tu persécutes. Puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Je lui dis... Puis là, il dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Paul, ça va être dur pour toi d'aller contre ma volonté. Donnez un exemple, une illustration, OK? Flatter un porc épic, tu as deux sens de le flatter. Il y en a un qui va mieux que l'autre. C'est dans ce sens-là. Tu veux-tu aller contre les épines ou tu veux aller dans le sens des épines? Il te serait dur. Ça va être dur pour toi. tu vas être misérable. Puis dans son amour, le Père nous dit ça. Tu vas être misérable si tu vas contre ma volonté. Parce que ma volonté, c'est là où ce que l'amour, la paix, la joie, c'est là que ça se passe. Fait que je dis, Seigneur, plie ma volonté à la tienne. Puis j'espère qu'en tant qu'Église, c'est notre désir. On ne pourra jamais, jamais aller plus loin si ce n'est pas ça notre désir. Fait que je vous encourage, j'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît, en terminant. Wow, hein, du stock dans ça. Tu venais, Chantal, s'il vous plaît? Mais, tu sais, c'était gentil, là. Peut-être je m'abandonne. Yeah? You have it? If you have something else. Okay. C'est pas ses têtes, hein? Non, c'est les deux en haut. Pour moi, il est brisé. Seigneur, on prie que le Mac, il soit... Mais ils disent que les Macs sont indestructibles, fait qu'on va voir. Non, c'est une joke. OK, c'est correct. OK, on revient, zone in. On va dealer avec ça tantôt. Père, ce matin, on a entendu ta parole, puis on prie que... Je prie sincèrement que tu nous amènes dans le bon chemin. Je prie que tu nous amènes à désirer marcher selon ton esprit. Que ce soit plus que juste un message, puis pour certains, un bon message, plus que ça. Que ce soit quelque chose qui vient nous travailler, qui vient nous... qu'on va ressortir avec ça, pour, on va y penser, ça va faire quelque chose à l'intérieur de nous. Ta parole est là pour nous encourager, pour nous édifier, mais elle est là pour nous corriger aussi, pour qu'on puisse marcher dans tes voies. Alors je prie qu'on entende la voix de l'Esprit ce matin. Merci pour ton peuple. Merci pour ton amour, Père, qui nous poursuit. Puis lâche-nous pas, Papa. Lâche-nous pas. Continue à nous convaincre. Continue à nous amener près de toi. Merci, Père. Merci, Père. Si ce matin la parole a touché quelque chose dans ton cœur, ce serait super cool si on pourrait encore une fois venir ici en avant, puis peut-être juste se mettre à genoux devant lui, puis chanter « Je t'abandonne », c'est ça, Chantal? « Je t'abandonne ». Non, c'est « Je t'abandonne ». What are you saying? Ok, tu vas chanter ça là. « Je m'abandonne ». Puis, Jacques, pourrais-tu juste fermer les lumières qui sont ici en avant pour ça? Puis peut-être c'est le temps encore. Juste venez pendant que je parle. Pas besoin d'attendre. C'est peut-être le temps encore pour nous de courber notre volonté devant la sienne. C'est peut-être le temps encore pour nous de fléchir nos cœurs et dire, Seigneur, c'est ta volonté que je désire. Je veux pas vivre dans la chair. Je veux pas. En venant ici, t'es pas en train de dire que t'es un charnel. C'est pas ça que t'es en train de dire. tu es en train de dire que tu es quelqu'un qui désire marcher dans l'Esprit. Puis peu importe le niveau où tu es, moi je pense honnêtement qu'on peut toujours plus. On peut toujours plus. Si tu dois quitter ce matin, mais tu peux y aller, puis on t'aime, surtout le Père t'aime. Il désire changer nos vies. Je te souhaite une bonne semaine.